Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Le fait d'avoir fait cette action-là et d'avoir posté cette vidéo-là, elle m'a ouvert les yeux et je me suis dit, mais purée, moi qui aime bien aider les gens, qui a envie de donner, ben voilà, j'ai trouvé.
Couturière, couturier, bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Dans Blabla Couture, j'interview des créatrices et des créateurs de contenu qui parlent de couture pour comprendre leur inspiration, leur stratégie et ce qui les pousse à créer de nouveaux projets autour de la couture. Dans cet épisode, le premier, j'ai la joie de recevoir Jupi. Jupi documente sa passion pour la couture depuis 2018 avec un certain succès puisque sa chaîne YouTube vient de passer les 100 000 abonnés. Je vous propose de commencer sans plus attendre. Jupi, est-ce que tu peux te présenter ?
Alors bonjour, moi je m'appelle Jupi. On connaît bien sur les réseaux sociaux grâce à ce nom et surtout grâce à la couture.
Ouais.
Et donc, je me suis lancée il y a 3 ans maintenant déjà. Je me suis lancée juste avant le confinement qu'il y a eu avec le Covid, tout ça, tout ça. Ce qui m'a amenée en fait à me lancer sur les réseaux sociaux. C'est ma passion de la couture, ma passion aussi de l'audiovisuel et de tout ce que j'ai pu apprendre un petit peu dans ma vie. Et en fait, j'avais réfléchi à ce que je pouvais faire dans ma vie, soit ouvrir une boutique. Vraiment, j'avais réfléchi à plein d'idées de business. Et donc, j'ai pensé à ça. Et ça a très vite fonctionné. Et aujourd'hui, me voilà.
Donc toi, j'ai un peu regardé les réseaux, j'ai vu que tu avais créé ta chaîne en 2018, mais
oui, c'est ça.
La première vidéo était sortie effectivement janvier 2020, donc juste avant le premier confinement.
Ouais.
Et aujourd'hui, le temps que le podcast sorte, on va dire que tu as 100 000 abonnés.
Ouais, c'est ça.
Félicitations, c'est quand même un cap hyper important, tu vas recevoir un trophée, dis donc.
Oh là là, incroyable.
Je pense que je faisais ça juste pour le trophée. Alors, c'est peut-être ma seule motivation, mais...
C'est vrai.
J'ai l'impression que je suis le seul à être dans ce cas-là, mais vraiment, les petits trophées de YouTube, c'est ma vie.
Non, c'est vrai que les 100 000 abonnés, c'est vraiment un cap sur YouTube, parce que c'est là où on se rend compte qu'on commence à être une grosse chaîne importante, qu'on se fait une place, et ça atteint un peu plus... plus de personnes, forcément, on a une plus grosse communauté et ça atteint, ça touche plus de personnes parce qu'on augmente en fait notre notoriété sur les réseaux sociaux, la confiance qu'on peut avoir avec des gens, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que, j'ai pas l'impression entre 10 000 abonnés, je m'en souviens très très bien, et là maintenant les 100 000, à part les statistiques, je me rends pas compte en fait, vraiment, je pense pas que je me rends compte vraiment de ce qui arrive.
C'est la taille d'une belle ville, quoi. Ça commence à être une jolie ville française.
Ouais, c'est ça.
et non, mais et puis j'imagine que tu as peut-être, enfin, quand on débute sur YouTube, on a peut-être l'impression de parler un peu dans le vide au démarrage, quand il n'y a pas grand monde qui regarde les vidéos. On a les copains, les copines ou les parents qui font des retours, mais c'est vrai qu'au début, c'est peut-être un peu tendu. Et ouais, 100 000 abonnés, c'est vraiment un joli chiffre. Et puis, t'es arrivé hyper vite à ce chiffre-là, quoi.
Ouais, c'est vrai que, ben, en fait, c'est surtout le fait d'avoir été très régulière. Bon, je travaillais à côté, hein, un peu comme tout le monde. Et vraiment, je passais des heures et des heures à trouver des idées, à essayer de me former via ce qu'il y avait sur Internet, qui avait déjà des vidéos sur comment se former, comment démarrer sur YouTube, comment réussir quoi sur YouTube. Et je me souviens avoir passé des heures et des heures à regarder des vidéos sur YouTube et à me former comme ça. Et en fait, ce qui a fait que ça fonctionne, c'est la régularité. Et ouais, je pense que ça paye. Tout ce travail acharné, ouais, je pense que ça paye au bout d'un moment.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert la couture au démarrage ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mise à faire de la couture ?
Alors, j'ai découvert un petit peu ce milieu-là via mes grands-mères. Je pense, comme beaucoup de jeunes filles, peut-être de jeunes hommes, comme toi.
Il y en a un peu. Bah, moi, c'est pas par ma grand-mère, mais il y en a un peu moins, on va dire.
Ah ouais.
Mais c'est vrai que la
ouais,
plupart
bah ouais,
des.
Forcément, c'est une plus. Ouais, ça touche un peu plus les femmes en France, en tout cas.
Pour le moment.
Un peu beaucoup, même. Mais voilà, donc j'ai démarré comme ça, en fait, en apprenant. Et en fait, ce que je faisais avec mes vêtements quand j'étais petite, c'est que je les coupais. J'essayais de faire des choses, de les. Ouais, j'étais assez créative, voilà, et au plus grand malheur de ma mère, parce que je coupais mes vêtements.
Oui, c'est ce que j'allais dire, tes parents te détestent.
Ah, oh là là.
Non, enfin, en tout cas, pour ça.
Voilà, certains vêtements, en fait, je voulais les transformer.
Ok.
Et c'est venu de là, et en fait, j'adorais les costumes, le fait de se déguiser, de rentrer dans un personnage, tout ça, ça me passionnait, ça me fascinait. Et c'était surtout les grosses robes bien travaillées, ça, c'était vraiment quelque chose qui m'émerveillait. Un peu comme un enfant devant un film Disney. C'était pareil pour moi, mais sur des robes de pas forcément de princesse, mais vraiment des gros costumes, le fait d'avoir un personnage, tout ça, c'est un univers qui me passionnait beaucoup. Et du coup, à l'âge de 16 ans, j'ai voulu devenir costumière parce que ça correspondait bien à ce que je voulais faire, à mon rêve. Et donc, je suis rentrée d'abord dans une école de mode à Grenoble. C'était un bac pro métier de la mode. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Parce que,
et là, c'est le drame.
Ouais, voilà. Et là, c'est le drame. Donc, mon entrée dans cette école, déjà dans la classe, il y avait pas mal d'élèves qui avaient fait un choix par défaut. Il y avait beaucoup d'élèves très turbulents, voilà, qui perturbaient les cours. Et en fait, c'était aussi dans un univers de mode, avec tous les clichés de la mode qui viennent, c'est-à-dire, bah oui, tout ce qui brille, c'est pas forcément très joli à voir. Les élèves, vraiment, étaient cruels entre eux. Enfin, je me souviens que j'en ai souffert. Et en plus, j'étais à l'internat.
Bien.
Parce que c'était pas à côté de chez moi. Donc, aussi, voilà, il y avait aussi le côté où on se retrouvait le soir, où je ne pouvais pas dormir correctement. Des fois, je manquais des heures de sommeil pour attaquer les journées le lendemain parce que j'étais dérangée tout simplement dans la nuit. Enfin, voilà, vraiment, c'était éprouvant et pas tous les élèves étaient passionnés dans cette classe-là comme moi je l'étais. Et j'étais tellement frustrée et tellement triste. Et en fait, courant cette année-là, j'en ai parlé à mes parents qui m'ont énormément soutenue, franchement. Et en fait, ils ont cherché avec moi et en discutant un petit peu avec d'autres personnes et en faisant des recherches aussi de notre côté, on a trouvé un équivalent au bac pro et c'était le DTMS, diplôme du technicien des métiers du spectacle, option habilleur.
Donc beaucoup plus dans ce que tu cherchais, de faire des costumes, de faire tout ça.
Exactement, exactement. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à deux journées portes ouvertes, qu'en fait, des DTMS, en tout cas à l'époque, il n'y avait pas énormément d'écoles qui proposaient cette classe. Parce que c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup d'élèves. Nous, dans ma classe, il me semble qu'on était 12 ou 11, je ne sais plus. Donc, d'accord, c'est vraiment très spécialisé. Et donc, je suis allée aux journées portes ouvertes de Lyon et d'Annecy.
D'accord.
Et quand je suis allée à Annecy, alors eux, ils font tout ce qui est costume pour le carnaval de Venise. Et donc, j'ai pu voir tout ce qu'ils faisaient et tout. Et je me souviens avoir fondu en larmes en me disant, mais c'est ça, en fait, que je veux faire.
C'est la ça, révélation.
Et c'était... En fait, ouais, je me suis rendu compte que oui, ce que je voulais faire, c'est possible. Et qu'il ne fallait pas que je me laisse abattre par ce que j'avais vécu la première année. Et donc, j'ai choisi plutôt l'école de Lyon parce qu'ils proposaient plus de choses, c'était un peu plus vaste, tandis que Annecy, en fait, ils proposaient... Enfin, c'était plus ciblé sur le carnaval de Venise. Et en réfléchissant, on s'est peut-être dit, avec l'aide de mes parents, c'est eux qui m'ont bien guidée, on s'est dit que c'était peut-être mieux de se diriger avec une orientation où je vais découvrir vraiment plus d'univers que juste le carnaval de Venise, quoi. Voilà.
C'était une formation, du coup, qui était un peu plus touche-à-tout que celle d'Annecy, si je comprends bien.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, la formation a duré 2 ans. Ça s'est très bien passé, j'ai obtenu mon diplôme et suite à ça, il y avait la possibilité d'évoluer, donc de faire un DMA costumier. Okay. Et j'ai préféré, je ressentais le besoin de me découvrir. Donc j'ai préféré en fait rentrer directement dans le métier, quoi. Donc j'ai cherché à être directement habilleuse. Donc j'ai cherché un petit peu sur Lyon, tout ça, mais malheureusement, je suis tombée sur une période qui ne recrutait absolument pas. Donc j'étais mal tombée pour le coup.
Et c'était il y a 10 ans, ça, à peu près?
Ouais, c'était il y a 10 ans. Ouais, okay. Facile.
C'est vrai qu'à l'époque, on parlait pas trop de relocalisation, de tout ça, quoi.
Non, c'était encore différent. Et puis c'est vrai que... on avait moins d'accès de gens qui en parlaient, justement, par rapport à maintenant où on a les réseaux sociaux. C'est vrai qu'à l'époque, c'était complètement différent que maintenant, mine de rien. Mm-hmm. Même si j'ai l'impression que c'était hier, non, pas tant que ça.
Désolée,
hein.
C'était il y a très longtemps.
Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, je me suis dit « quoi faire ?» Et en fait, j'avais parlé au début, j'étais fascinée par les personnages. Mmh. J'étais fascinée par ce milieu-là, au-delà du costume. C'est vraiment le personnage incarné. Et du coup, j'ai décidé de faire une autre formation pour être animateur polyvalent, dans le tourisme en gros. Et dans cette formation, on nous apprenait à être formateur, on pouvait obtenir le BAFA, et c'était vraiment spécialisé dans le tourisme et les arts de la scène. Donc, dans les arts de la scène, j'ai pu voir le théâtre, le chant, mmh. La danse, il y avait quoi encore, la magie, il y avait encore un cinquième, et je ne sais plus, mais bon, voilà. Les tours, des arts de la scène. Et c'est peut-être comme ça que je me suis un peu décomplexée, parce que j'étais quelqu'un d'ultra introverti, très, très introverti.
Ça ne se voit pas trop
et
dans tes vidéos aujourd'hui.
Et c'est le théâtre qui m'a vraiment... Ah non, ouais, vraiment, ça n'a rien à voir. Et le théâtre m'a vraiment aidée à ne plus avoir peur, en fait, du regard des gens et ne plus me rester dans ma bulle, en fait. Et je sentais que j'avais besoin de casser ma bulle et de sortir, en fait, de ma zone de confort et de m'exprimer. Et en fait, ça m'a aidée. Vraiment, ça a été un gros cap en complément avec la couture, quoi. Avec une autre passion, du coup. Et là, par contre, j'ai eu plus facilement d'accès au monde du travail suite à cette formation. Et donc, j'ai fait un petit peu tout dans l'animation. Autant j'ai travaillé au camping, dans des hôtels-clubs, des centres aérés, des colonies de vacances. Et j'ai plus travaillé avec les enfants qu'avec les adultes, mais mine de rien, j'ai pu toucher un peu à tout. Et la couture a toujours été là pour être un plus dans tout ce que je faisais. Par exemple, le soir, on était amené à faire des spectacles, des choses comme ça. Il y avait des costumes. Bon, c'est pas les costumes de théâtre, hein. Voilà, ça n'a rien à voir, hein. C'est des costumes voilà, très vite faits. Mais mine de rien, ça aidait toujours d'avoir ça avec moi. Et ma machine, je l'ai trimballée de partout. Mais quand je dis de partout, c'est vraiment de partout.
Ah oui, t'étais l'animatrice qui faisait les costumes des spectacles pendant les colos,
un
quoi.
Un petit peu.
Pendant les colonies.
Ouais, c'est ça, un petit peu, ouais. Je me servais de la couture pour apporter un plus dans l'animation. Et au bout d'un moment, en fait, je passais plus de temps à... parce que l'animation, en fait, on passe énormément de temps à travailler sans forcément... Ouais, c'est beaucoup d'heures supplémentaires sans forcément être rémunérées à côté. C'est beaucoup d'investissement personnel. Et je me suis dit, je trouve ça dommage, en fait, de passer à côté de rêves que j'avais, c'est-à-dire autour de la couture. Voilà, je me cherchais encore. Je ne savais pas trop où j'allais, mais j'avais déjà des idées en tête. Et l'audiovisuel, c'est toujours un truc qui m'a énormément plu, en parallèle de tout ça. Et je me souviens, je m'amusais avec mon frère à faire des petits films et tout. Alors, c'était vraiment des histoires à dormir debout. Mais voilà, mine de rien, ça m'a servi. Et j'ai appris, en fait, à me servir d'une caméra, à tourner, à monter quelques vidéos. Voilà, tout ce que j'ai fait par le passé... Ça m'a servi par la suite, à ma grande surprise, quoi. C'est fait un peu progressivement, en fait. Hein.
Et à quel moment, alors, tu décides, tu te dis, je vais me lancer sur les réseaux, je vais essayer de... À quel moment ça bascule, en fait, pour toi ? Tu arrives à réunir les deux passions qui sont donc, d'un côté, l'audiovisuel, de l'autre, la couture.
Eh bien, en fait, c'est un petit peu un accident qui m'est arrivé, qui m'a stoppé et qui m'a obligée à réfléchir et à me concentrer sur moi-même.
D'accord.
Parce que je voulais beaucoup faire pour les autres, je voulais beaucoup donner aux autres sans et je laissais mes rêves de côté. Et donc, j'ai eu un accident au genou, ligament croisé, le ménisque qui a sauté. Enfin, vraiment, c'était un gros
total,
accident.
Quoi.
Ah ouais, et je ne pouvais plus marcher. Donc, je me suis retrouvée complètement coincée. Et pendant cette période-là, ça a duré quelques mois, hein, parce que c'était une rééducation importante. Je me suis dit, bah, plutôt que d'attendre que la vie passe, je me suis remise à la couture. C'est à ce moment-là que j'ai justement sorti la première vidéo sur ma chaîne YouTube. Je ne sais plus si elle y est d'ailleurs. En 2018. Justement, c'est à ce moment-là où j'ai créé la chaîne YouTube et je commençais voilà, à me poser vraiment de questions et à faire des choses concrètes. Donc j'ai recommencé à sérieusement coudre et je faisais des tenues. Malgré que j'avais le genou et que je ne pouvais pas marcher, je faisais quand même des photos. Voilà, je tenais sur une jambe comme ça et j'essayais de me débrouiller quoi, malgré mon accident.
C'était un accident à la jambe droite, gauche, pardon ?
À la jambe gauche, ouais. Le genou
Parce que je
gauche.
Me disais, comment elle appuie sur sa pédale si elle a la jambe
oui,
éclatée ?
Oui, ah oui.
Ou alors, il faut inverser les jambes, mais dans ce cas-là, c'est comme apprendre à conduire à l'envers, tu vois. Ça doit être un enfer de réapprendre à doser le...
Ouais, complètement.
Donc, mais c'était la bonne jambe, finalement.
En y pensant, je pense que je l'aurais fait quand même.
Ah bah oui, je pense que ça t'arrête pas.
Ouais.
Si t'as envie, ouais. C'est vraiment un détail, quoi.
Tout à fait. Et donc suite à ça, suite à voilà, poster des premières photos sur Instagram, bon, je ne suis pas sûre qu'elles y soient encore, mais voilà, suite à avoir testé des choses, je me suis dit, pourquoi pas en faire vraiment quelque chose, et j'ai vraiment tout exploré. Je me suis posé la question, quel type de business pourrait correspondre à ce que j'ai envie de faire et à mes envies aussi personnelles. En fait, comment je pourrais aider le monde avec ce que j'aime faire en même temps ? Qu'est-ce que je peux... En fait, qu'est-ce que j'en fais de tout ça, en fait, de tout ce que j'ai appris jusque-là ?
Toi, dans ta tête, dès le début, il y a un côté, ça va être un métier.
Ouais.
Non, mais c'est intéressant parce que je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai qu'avoir une logique business d'entrée de jeu, ça change la donne. Peut-être que tu t'investis plus.
J'ai toujours voulu... j'ai toujours eu ça en moi, mais je savais... En fait, je ne m'en sentais pas capable à l'époque. Je ne m'en sentais pas capable. Je me disais, c'est trop pour moi. Je n'ai pas les compétences. Je ne sais rien faire. Je ne connais rien en business. Enfin, vraiment, pour moi, c'était... pas du tout à ma portée, c'était pas pour moi. Et je me sous-estimais énormément. Quand je me revois moi à l'époque et maintenant, ça n'a rien à voir. J'ai vraiment évolué et je me suis donné les moyens pour. Hein, ça s'est pas fait tout seul. Et à force de persévérer, ben voilà. Et donc à l'époque, c'est vrai que je me suis posé toutes ces questions. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ouvre une boutique? Je me suis vraiment posé plein de questions en rapport quand même avec la couture et avec ce que je savais faire, avec mes compétences en gros. Mais je me suis dit qu'il y avait certaines contraintes dans un business qui me plaisaient moins. Par exemple, le fait d'avoir une boutique, ça me plaisait moins parce que j'étais soumise à des contraintes horaires. Le fait d'avoir une boutique, il fallait avoir aussi un petit capital quand même pour ouvrir une boutique. Pour moi, c'était pas possible en tout cas. Et puis finalement, ça correspondait pas à la liberté que je cherchais à travers tout ça. Parce que vraiment, moi, j'ai toujours eu ça, le mot liberté, le fait de pouvoir, entre guillemets, hein, faire ce que je veux, quand je veux, à l'heure que je veux, et être totalement autonome. C'était très important pour moi.
Quand tu dis ouvrir une boutique, tu parles d'une boutique de fringues, pas une mercerie, pas...
Eh bien, je me suis posé toutes ces questions.
Okay.
Est-ce que ça pourrait être une boutique de seconde main, une marque de vêtements? Je me suis posé vraiment toutes ces questions. Éventuellement, oui, comme tu le dis, une mercerie. Vraiment, je suis passée par toutes ces interrogations-là. Et finalement, je me suis dit non, c'est ça... Ça va pas être pour moi. Je me sens pas. Je sens que ça. Non, ça vibrait pas avec moi. Et en fait, du coup, suite à m'être posé toutes ces questions, je me suis dit, allez, on arrête de réfléchir trop longtemps. Il faut que je passe à l'action. Parce que moi, je réfléchissais beaucoup parce que je voulais pas non plus me tromper et pas faire des actions dans le vide et pas non plus m'éparpiller. Ça, c'était très difficile aussi à gérer. Parce que je suis quelqu'un qui m'éparpille beaucoup, donc c'était pas évident. Mais maintenant, on y arrive, tu vois, à force. Hein.
Et quelle décision, du coup, tu prends? Qu'est-ce qui te déclenche le fait de lancer ton site, lancer ta chaîne, etc.?
Eh bien, en fait, au début, j'ai l'idée de poster, de faire un système, en gros, de poster des vidéos. Pour faire un gros projet, une grosse robe, ou vraiment un gros projet couture, robe cocktail, tu vois, vraiment un gros projet, quoi, que ce soit du costume ou quoi, vraiment j'avais cette idée-là. J'ai commencé un petit peu et je me suis dit, en fait j'ai pensé business sans me rendre compte, je pense, je me suis dit, mais comment attirer les gens, comment est-ce que je peux amener les gens à venir voir ça? Parce que si je fais des choses pour moi et juste pour mon intérêt personnel, je ne vais attirer personne. Mmh. Ça va mettre beaucoup de temps avant que ça touche des gens. Et je voulais vraiment aussi aider les gens dans un domaine. Et mon entourage, tout le monde me disait, mais poste des tutos. Et moi, ça ne me parlait pas au début. Très honnêtement, ça ne me parlait absolument pas. Je ne me voyais pas trop faire ça. Encore une fois, hein, je ne me sentais pas capable. Je voyais toutes mes lacunes point de vue couture. Je me disais non, ce n'est pas pour moi, c'est trop complexe. Vraiment, ça ne me parlait pas. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on va se lancer, on va en poster un et on verra bien. Et bien le premier que j'ai posté, il a cartonné.
C'est la jupe C'est la petite jupe, c'est
ouais,
ça?
C'est la jupe. Ouais, c'est la jupe tonneau, quoi, avec un élastique en haut.
Qui est à plus de 100 000 vues aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Alors, par rapport à ma chaîne YouTube, les vidéos qu'il y avait déjà sur ma chaîne, Et cette vidéo, ça, c'est ça qui a donné l'élan pour la suite. Et cette vidéo, c'est vrai qu'elle m'a, elle m'a ouvert les yeux, en fait. Le fait d'avoir fait cette action-là et d'avoir posté cette vidéo-là, elle m'a ouvert les yeux et je me suis dit, mais purée, moi qui aime bien aider les gens, qui a envie de donner, bah voilà, j'ai trouvé.
Ouais, t'as l'impression d'être utile, les gens te remercient, ouais, etc.
Ouais, c'est ça, en fait, je vois tout le positif que j'arrive à transmettre à travers les vidéos. Et en plus, enfin, je sais pas si on le ressent comme ça dans la vidéo, mais je l'ai tourné un peu, je m'en foutiste, quoi. Mais vraiment, j'étais pas du tout sérieuse, je me suis dit, allez, on va faire un truc comme ça, vite fait, mais vraiment... Et en fait, je me suis rendu compte que c'était, bah, c'est un peu ma personnalité aussi, mais ça a plu aux gens, ce côté décalé.
Ce côté nature.
Ouais, c'est ça.
Et puis ça change, j'ai l'impression aussi, de ce que faisaient à l'époque les autres, qui étaient beaucoup moins rigolos, beaucoup moins désinvoltes que toi.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et c'est vrai que j'avais cherché un petit peu ce que faisaient d'autres personnes. J'étais pas tombée sur toutes les chaînes YouTube, j'avais un petit peu regardé. Et c'est vrai qu'il y avait, même moi, il n'y avait pas grand-chose qui me parlait à l'époque par rapport à ce que je voulais faire, des vêtements. Et je me suis dit, bon, on va voir. S'il y avait des choses peut-être, mais pas français.
Ouais.
Tu vois, il y avait des choses peut-être qui venaient plus des États-Unis, des vidéos comme ça, ce qui sont toujours en avance par rapport à nous.
Ah ça, je te le confirme. Et du coup, après ce truc-là, là, tu postes un premier tuto qui, effectivement, par rapport aux autres vidéos que tu avais postées avant, décolle complètement et te donne une impulsion, peut-être une motivation aussi, une confirmation de ce que tu as envie de faire et que ça peut marcher. Et à quel moment tu te dis, bon, c'est le bon truc? A priori, je continue dans cette voie et c'est un métier qui peut... Parce que je ne sais pas, en 2018-2020, je ne sais pas si on est encore conscient qu'on peut vivre de ce truc-là.
Alors moi, je l'avais compris, ça.
Okay.
Je l'avais déjà compris à l'époque. Et je voyais... En fait, j'avais vu des gens qui en parlaient, des chaînes YouTube qui n'avaient absolument rien à voir avec la couture, qui parlaient justement de business. Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi?
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En fait, je me suis dit, si ça marche pour eux, pourquoi pas moi? Et je me suis dit, ça va marcher. Et à partir de cette vidéo, c'est ça qui m'a dit, si ça a marché pour une vidéo, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour le reste, pour les autres vidéos que je vais sortir? Et c'est comme ça que ça m'a donné l'impulsion. Et j'ai toujours voulu réussir dans ce domaine-là. Pour moi, c'était totalement parlant avec tout ce que je voulais, avec toutes les valeurs que je voulais, avec cette recherche de liberté, de libre arbitre, de pouvoir gérer les choses par moi-même et surtout, de fil en aiguille, ne plus être dépendante d'un patron. Voilà. Et donc, pendant que je postais justement toutes ces vidéos, j'ai cherché à améliorer un peu plus mes compétences dans la mode, dans... Voilà, j'ai vraiment cherché à faire ça. Je me suis dit, pourquoi pas faire un métier qui se rapprocherait de ce que je souhaite améliorer en termes de compétences. Et je me suis dit, la vente dans les vêtements, c'est peut-être une bonne chose à faire.
D'accord.
Donc, j'ai pensé à ça et j'ai suivi une petite formation de 2 mois qui était spécialisée dans le luxe, donc pour les vêtements de luxe. Et ça m'a donné l'impulsion pour être recrutée après par... j'ai pu travailler avec plusieurs marques de prêt-à-porter. Au début, je voulais plus m'orienter vraiment dans le luxe, mais finalement, ça ne s'est pas vraiment fait comme ça, même si j'y ai touché un peu à tout. Mais c'est bien, ça m'a permis de voir un peu plus de choses en termes de mode, en termes de coupe de vêtements, les matières, le business aussi, mm-hmm. parce que le fonctionnement de plusieurs entreprises m'ont vraiment aidé à comprendre le milieu du business, à comprendre comment ça fonctionnait. J'ai été formée aussi en tant que vendeuse, mais malgré tout, franchement, ça ne me parlait pas, hein, parce que j'avais vraiment le sentiment de prendre les gens pour les cartes bleues. Je ne sais pas si tu vois, des fois, quand tu rentres dans une boutique, tu as la vendeuse qui te saute dessus. Nous, on nous demandait de faire ça, alors que j'avais horreur de faire ça, mais j'étais obligée.
Cette vendeuse, c'était toi.
Ouais, c'est ça.
Bonjour, est-ce que je peux vous aider?
Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et, mais on nous obligeait à le faire.
Oui, bien sûr, parce que ça marche, j'imagine.
Ouais, certainement, ça fait partie de la politique de l'enseigne, ça dépend de... Ouais, ça dépend vraiment de l'enseigne en question. Mais c'est vrai que je me reconnaissais pas. Et au bout d'un moment, ça commençait à faire beaucoup. Le fait à la fois de travailler à côté pour un patron ou une marque et à côté travailler sur ma chaîne YouTube, ça faisait vraiment beaucoup. Et il y a eu aussi, tu sais, toutes ces périodes de confinement qui me permettaient aussi de continuer à travailler sur ma chaîne YouTube. Et en fait, c'était très compliqué pour moi de m'adapter à l'un et à l'autre. Au bout d'un moment, ça commençait vraiment à être très tendu. Et même moi, psychologiquement, ça commençait vraiment à être trop. Et ce qui s'est passé, c'est il y a peut-être 2 ans, donc 1 an après m'être lancée sur YouTube. J'ai un doute, 1 an ou 2, je sais plus.
T'as pas l'année du tout ?
Non, je sais plus, j'ai un trou de mémoire.
Moi, je me repère vachement grâce au confinement, pour le coup.
Ouais.
Parce que je trouve que le confinement a été vraiment quelque chose qui a changé la donne, en tout cas pour la couture sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui se sont découverts une passion pour la couture, même si ça a été une passion éphémère. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont acheté des machines, qui ont regardé les vidéos pour apprendre et tout.
Ah oui, il y a un gros élan. Ouais.
Et c'est vrai que
moi,
je me base beaucoup là-dessus pour dater un peu ce que j'ai fait. Mais c'est peut-être moi qui ai des problèmes psychologiques avec ça. Ça a été plus violent que ce que je veux bien, reconnaître.
Je pense que c'était lors du dernier confinement.
C'était quoi, novembre 2020 ?
Peut-être bien, ouais.
Attends, il y a peut-être eu un confinement en 2021, je ne sais plus.
Il y a vraiment eu un dernier confinement où il y avait eu des fermetures de boutiques, il y avait eu quand même... il y avait eu quand même encore des fermetures de boutiques à l'époque. Et donc ensuite, ils ont réouvert.
Ok.
Et donc, j'ai été embauchée par une marque un petit peu avant. Il y a eu au milieu le confinement. Au début, j'étais très motivée. En plus, c'est une marque de prêt-à-porter de luxe.
Ouais.
Enfin, vraiment assez haut de gamme. Et au début, j'étais motivée. Et en fait, le fait de m'être retrouvée en confinement, mais je kiffais travailler totalement sur ma chaîne YouTube et sur ce que j'essayais de créer, parce que encore à ce moment-là, j'avais pas vraiment d'idée de business, je voulais vraiment réussir avec ma chaîne YouTube. C'était vraiment ça, j'avais pas vraiment réfléchi à une idée de produit ou quoi, c'était vraiment pas encore très abouti dans ma tête. Et donc c'était cool en fait pour moi de m'être retrouvée sur cette période de confinement, puisque ça m'a permis de m'investir encore plus sur les réseaux sociaux et notamment sur ma chaîne YouTube. Et quand le confinement s'est terminé, quand on a repris le travail en boutique, là, franchement, c'était très dur d'y aller et je n'avais plus envie. Je voyais en fait toutes les choses qui étaient contraires à mes valeurs et c'était très difficile de me confronter à ça tous les jours. Et au bout d'un moment, j'étais en période d'essai pour un CDI. Un jour avant, ils ont attendu, je me souviens très bien, c'était un samedi, en période de Noël. Un samedi, il était La boutique fermait à 19h, donc peut-être à 18h55. La responsable vient me voir et me dit « Vous êtes virée. »
Oh, waouh.
Comme ça. Ouais. Donc ça a été l'électrochoc.
T'avais fait une connerie ou c'était vraiment arbitraire et...
Non, ils n'ont pas voulu me dire, donc je pense que c'était peut-être pour leurs intérêts d'effectifs ou je sais pas trop, parce que vu qu'il y avait eu le confinement, je savais pas quelles étaient les raisons à ça. Mais bon, ils étaient dans leurs droits puisque j'étais encore en période d'essai. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a... Je l'ai vraiment vécu comme une trahison parce que je m'étais beaucoup investie. C'était une boutique qui était en chute libre. Et je m'étais beaucoup investie, même si, bon, bah, sur la fin, j'étais pas parfaite. Et j'avais vraiment besoin, je pense, d'un soutien moral à ce moment-là. Mais c'était pas grave. Pour moi, c'était passager. Puis après, j'allais rebondir et continuer à faire ce travail acharné. Finalement, cette espèce de gros mur, de gros stop, en fait, qu'on m'a mis. C'est comme ça que j'ai réalisé, mais il faut que je fasse quelque chose. Il faut pas que je continue comme ça, il faut que je prenne une décision. C'est soit je continue, et ça va prendre des années encore à pouvoir vivre de ma passion. Donc soit je continue à être employée chez quelqu'un et galérer comme ça, soit vraiment je prends une décision radicale et on y va, je crée mon entreprise et vraiment on y va, parce que ça me faisait une peur bleue de créer mon entreprise, de gérer la comptabilité, ça c'est un truc qui me faisait très peur, voilà, de gérer tout ça, ça me faisait vraiment une peur. Je te raconte même pas, c'était quelque chose pour moi qui était pas du tout à ma portée.
Ah ben j'ai eu les mêmes peurs que toi, hein.
Ah ouais.
Je pense que n'importe qui n'a pas de... Moi, mes parents sont pas entrepreneurs, par exemple, ils sont profs, donc jamais j'ai entendu parler de gestion, de comptable, de frais professionnels et tout, parce que quand t'es prof, a priori, en tout cas de ce que j'en sais, il n'y a pas vraiment tout ça. Et quand tu débarques dans ce milieu, enfin, quand toi, t'as envie de monter une entreprise, de faire ton business et que tu n'as jamais entendu parler de ça de ta life... Effectivement, c'est une crainte, quoi. Je pense que c'est une crainte partagée par beaucoup de gens qui se lancent et qui n'ont pas eu cette expérience familiale avant. Et c'est normal, de toute façon, d'avoir peur quand on se lance dans quelque chose de nouveau.
Ouais.
Et qui a l'air... Où il faut gérer tout un tas de trucs. Il faut que tu gères ton propre métier avec les difficultés qu'il y a. Et il faut que tu gères toute la partie gestion, la partie juridique, la partie peut-être technique. Si, dans notre cas, tu as un site internet et voilà, t'es pas codeur, t'es pas informaticienne, donc c'est vraiment une montagne, t'as l'impression d'être au pied d'une montagne hyper compliquée à franchir, quoi.
Ouais, c'est ça.
Avec des conneries qui peuvent t'envoyer dans le mur, parce que
complètement.
Si tu prends un contrôle et que ta compta est faite n'importe comment, tu peux vite te retrouver à être obligé de fermer, quoi.
Complètement, et c'est de tout ça que j'ai eu peur, et oui, je me reconnais complètement dans ce que tu dis, parce que j'ai eu ces peurs-là. Et je me suis dit, mais purée, ces peurs, il est vraiment temps que je les affronte et qu'on aille au bout des choses, parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Et là, je me suis dit, c'est l'opportunité parfaite. Je viens de me faire virer de mon boulot. Ma chaîne YouTube, elle avait vraiment monté d'un coup à cette période-là, période de Noël. Même en termes de revenus YouTube, c'était le plus gros revenu que j'avais eu jusque-là. C'était pas des montants énormes, mais mine de rien, je me suis dit, waouh, c'est possible de faire de l'argent par soi-même, quoi. C'était incroyable pour moi, tu vois, cette perception.
Avec YouTube, tu découvres que c'est possible de faire, enfin, c'est compliqué, hein, mais de faire de l'argent en restant chez soi, quasiment,
ouais.
En faisant des trucs que t'aimes et en le faisant quand tu veux, quoi.
C'est ça. Mais bon, je savais que YouTube, je pouvais pas non plus compter que là-dessus. Parce que on sait jamais ce qui peut arriver, et puis même c'est pas des, comme je le disais, c'est pas non plus des sommes astronomiques, ce n'est pas des sommes qui sont comme un salaire régulier, donc c'est pas possible de se reposer que là-dessus. Et je me suis dit pourquoi ce que je transmettais à travers les vidéos YouTube, pourquoi je l'exploiterais pas un peu plus et j'en ferais pas et je ferais pas finalement des cours de couture. Donc des formations en ligne. Et en fait, c'est comme ça que ça a démarré, c'est comme ça que j'ai créé ma première formation en ligne. Alors au début, pareil, hein, je me lançais vraiment dans l'inconnu. J'ai essayé de suivre un peu ce que les gens disaient. J'ai essayé avec System.io. J'y comprenais rien du tout. Pour moi, c'était un peu trop complexe. Finalement, j'ai trouvé Podia, qui est une plateforme beaucoup plus simple et minimaliste. Je me perdais moins avec tout un tas de détails qui, pour moi, je perdais un temps fou à devoir mettre des choses en place. J'avais vraiment besoin de gagner du temps parce que je passais déjà tellement de temps pour le montage et sur la couture que je ne pouvais pas me permettre de perdre du temps ailleurs, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais la couture, ça prend déjà tellement de temps. Plus le montage vidéo, c'était déjà un temps qui était très important sur mon temps de travail. Et je ne pouvais pas avoir un site et devoir tout faire au millimètre près. Ce n'était pas possible. Et en fait, c'est comme ça que j'ai vu que ça a commencé à fonctionner. En fait, c'était une toute petite formation et qui se vendait un petit peu.
La première formation, c'était quoi? La première formation que tu crées?
C'était apprendre les bases de la couture.
De A à Z, c'est ça? Ou en partant de zéro?
Oui, c'est ça. De A à Z, il me semble que je l'avais appelé comme ça.
Un truc complet pour... t'as jamais cousu de ta vie et tu nous apprends à coudre depuis zéro, quoi.
Oui, c'est ça. Et alors, cette formation, j'ai essayé de la faire un peu en récoltant les informations à droite à gauche. Mais pareil, le fait de... monter un cours, tu vois, de vraiment faire quelque chose de pédagogique, tout en trouvant l'équilibre entre la théorie et la pratique. Tout ça, c'est quand même des choses à apprendre. C'est des compétences à développer au-delà de ce que nous, on connaît et que l'on a en termes de compétences. Monter un cours, tout ça, c'était quand même un sacré job, quoi. Mais je me suis dit, c'est quelque chose qui me parle, donc je vais continuer sur ma lancée, à travailler dessus. Et puis, on va voir un peu ce que ça donne. Et cette petite formation que j'ai démarrée, finalement, j'ai fait une deuxième version. Et puis là, récemment, une troisième version pour l'améliorer, avec maintenant tout ce que j'ai appris et que j'ai mis en application. Ça n'a rien à voir à l'époque ce que je faisais. Et maintenant, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et là, tous les mois, je travaille sur une nouvelle formation. J'essaye de voir un peu ce que je peux mettre en place pour aller vraiment plus en profondeur dans les techniques, chose qu'on n'a pas le temps de faire sur YouTube. Parce qu'il faut aller vite, il ne faut pas passer trop de temps sur les vidéos, et puis sinon ça fait des vidéos de 2-3 heures facilement avec la couture. Du coup, je me suis dit non, c'est pas possible, et puis même en termes de pouvoir se rémunérer et en vivre, c'était important de trouver un équilibre parmi tout ça, quoi. Voilà un petit peu.
Aujourd'hui, est-ce que tu en vis de tout ça, ou est-ce que tu es obligé de travailler un petit peu à côté pour. Est-ce que c'est vraiment ton métier, la couture?
Ouais, c'est vraiment mon métier, la couture. J'en vis un petit peu, très modestement. J'ai encore pas mal de travail à faire parce qu'en fait, je me suis beaucoup... Enfin, l'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis beaucoup trop concentrée sur la création de contenu et pas assez sur la création de produits.
D'accord.
Et je m'en rends compte parce que, je vois bien dans mes résultats. Il y a des mois où ça va, des mois où ça va moins, et je suis vraiment en train de travailler en ce moment sur cet équilibre entre faire ce que j'aime en tout point de vue et pouvoir aussi apporter aux gens plus en profondeur et faire autant du contenu que des produits. Voilà, je suis vraiment en train de travailler là-dessus en ce moment et je me suis aidée justement, je me suis... payer une formation pour apprendre tout ça avec quelqu'un qui connaît très bien, qui en a fait son métier sur les réseaux sociaux et qui connaît très bien ce domaine-là, et ça m'aide énormément. Et c'est pour ça, en fait, que Instagram, ça a commencé à décoller, parce que je me suis vraiment formée et ça a tout changé, en fait. Je comprends mieux le système qu'il y a sur les réseaux sociaux, ce qu'il faut mettre en place. Et surtout, je voulais pas faire quelque chose... de putaclic qui ne correspondent pas à mes valeurs pour ça. Tout ça, pour moi, c'était très important. Je voulais pas faire de l'affiliation avec n'importe qui. Vraiment, j'ai eu plein d'opportunités de pouvoir le faire, mais je les ai toutes rejetées parce que ça ne me parlait pas et surtout je voulais pas vendre tout et n'importe quoi à ma communauté et les prendre pour des jambons, on va dire.
Pour des cartes bleues.
J'aime pas ça, ça me... Et pour des cartes bleues, pour le coup, exactement. Et c'était vraiment pas quelque chose qui me parlait et c'est pour ça... J'aurais pu, hein. Franchement, j'aurais pu peut-être mieux gagner ma vie aujourd'hui, mais j'ai pas voulu.
La formation...
Je préférais vraiment...
Pardon. La formation que t'as suivie, c'est celle de Mélanie ?
Non, c'est celle de Tony Nive.
Ah, je connais pas.
Tony Nive, qui lui est spécialisé un peu plus dans les formations, le business... et ça m'a vraiment aidé parce que lui il s'est beaucoup concentré sur Instagram et en fait ce que j'ai découvert à travers lui et à travers ce qu'il partageait par rapport à Instagram, ça m'a aussi servi pour les autres réseaux sociaux, notamment YouTube. Ça m'a vraiment permis d'améliorer mon personal branding.
Donc tu sais à qui tu t'adresses maintenant, quelles sont les personnes qui te regardent, celles que tu veux aussi toucher.
Exactement.
Ok.
Exactement.
Très bien. Attends, j'ai perdu du coup mes questions. Hop là. Parce que j'étais en train de regarder. Je pensais que tu avais fait la formation des Pi Bavardes.
Ah oui, oui, je vois qui c'est, oui.
Qui est du coup beaucoup...
Je vois très bien qui c'est.
Très axé sur la création manuelle, en fait, sur loisir créatif, mais l'artisanat, etc. Mais non, là, tu as pris quelqu'un qui était vraiment spécialiste des réseaux et qui t'explique comment mieux marcher. Ok.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, je me souviens que j'avais suivi Mélanie sur les réseaux sociaux. À un moment, je lui avais posé la question par rapport justement aux réseaux sociaux durant un live. Et elle avait dit que ça ne lui parlait pas trop et qu'il valait mieux s'adresser à quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, bon, ben, okay. je vais essayer peut-être de voir avec quelqu'un d'autre. Parce que vraiment, moi, ce que je recherchais... C'était pas vraiment le fait de créer une boutique, tu vois, et de faire une gamme de produits derrière, puisque vraiment, ce que je voulais faire, c'était digital. Et c'est pour ça, en fait, que ça ne lui parlait pas, et que c'était mieux pour moi de voir ça avec quelqu'un qui connaissait mieux ce domaine.
Ah oui, effectivement. Oui, toi, t'as pas du tout tu donnes pas de cours de couture en atelier, par exemple, ou en mercerie. T'es vraiment uniquement focalisé sur Internet.
Oui, c'est ça.
Et ça t'intéresse pas du tout de rencontrer des gens ? Ça fait un peu ermite imposé comme ça. T'es sûr que tu veux rester dans ta grotte toute ta vie ? Non, mais en plus je rigole, mais moi je suis pareil. Hein. C'est-à-dire, j'aime bien être derrière mon écran et ma caméra et faire mes trucs au calme en fait, sans avoir des regards posés sur moi en permanence. Et moi je fais aucun truc en vrai pour le coup.
Et oui, alors en fait, j'ai eu plein de métiers où j'ai été très, très entourée, où j'ai eu la chance, en fait, d'être avec des gens, mais formidables. Mais c'est vrai que j'avais besoin de me concentrer sur mon business sans être perturbée par le bruit extérieur. Et en fait, j'ai pensé à tout ça, je me suis dit, mais comment faire finalement pour continuer à faire ce que je fais ? Et pour rencontrer au moins ma communauté déjà. Mmh. Dans un premier temps, je pense que c'est pas mal. Et j'ai pensé à faire un atelier de couture sur roue pour aller rencontrer les gens.
Attends, je sais pas, un atelier pas de couture sur quoi ?
Sur roue.
C'est une ville qui s'appelle Roue ?
Non, non. Un atelier de couture sur roue, c'est-à-dire, par exemple, réaliser un fourgon aménagé.
Ah, qui me permettrait... ça y est, j'ai compris.
Et ouais, qui me permettrait en fait d'emmener tout mon matériel avec moi, et comme la machine à coudre, hein, et de pouvoir aussi, entre guillemets, vivre dedans temporairement pour pouvoir me déplacer dans un premier temps à travers la France et rencontrer un peu les gens qui me suivent.
Tu serais un peu comme le bibliobus, tu serais la couture au bus, quoi.
Ouais, c'est ça.
Pas mal. T'arrives dans les villages en klaxonnant et t'annonces ta venue avec des haut-parleurs. Non, c'est drôle. Et t'en es où, ce truc-là, du coup ? Ce projet ?
Pour le moment, c'est toujours un projet que je souhaite faire. Là, c'est vraiment réunir les fonds. C'est pour ça que là, je travaille vraiment activement sur mes formations, sur les réseaux sociaux, le fait de créer du contenu, tout ça. Et dès que ce sera possible, je financerai mon projet et je pourrai je pourrais me lancer, quoi.
Non, c'est une bonne... Ça se fait, ça ? Il y a des gens qui ont déjà fait ça en France ou dans d'autres pays ?
Alors, je sais qu'il y a des... Il y a... Le fait d'en avoir parlé, il y a des gens qui l'ont fait, ça. Qui ont construit des ateliers sur roue, du coup. Et qui se déplacent de village en village pour, par exemple, faire des retouches, faire des petites créations. Je sais que ça existe, ça, déjà. Ouais.
D'accord.
Voilà.
Non, c'est incroyable comme projet.
Ouais. C'est un autre concept. On se dit, en fait, la couture, il faut vraiment de l'espace. Ça demande beaucoup de matériel, tout ça. Mais je pense que si on s'organise, on peut y arriver. Et bah, la preuve, hein, là, je vis dans un 23 mètres carrés. Et j'arrive à faire tout ça. Donc, si j'arrive à faire tout ça dans un 23 mètres carrés, je devrais pouvoir y arriver dans...
dans 9 mètres carrés.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, je me dis qu'il n'y a que nous qui nous mettons des limites. Et j'aime bien de temps en temps repousser un peu les limites et casser ces barrières qu'on se met tout seul, hein, dans notre tête. Oui, bien sûr.
Et comment tu te vois où et faire quoi dans 5 ans ? 5 ou 3 ans, hein, tu vois. C'est, voilà. Quel est l'avenir pour toi si tout se passe bien ? Si tout se passe comme tu l'as prévu ?
Si tout se passe comme je l'ai prévu, je me vois avoir rencontré toute ma communauté. Façon de parler, mais avoir vraiment
rencontré
les gens. Tu as
100 000 abonnés, ça fait beaucoup de gens.
Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup de gens qui passent dans le fourgon, là.
Ah oui, ça c'est sûr. Je me vois quand même avoir parcouru avec mon atelier de couture sur roue, au moins la France, déjà. D'accord. Avoir rencontré des personnes qui me suivent. Je me vois avoir... parce que j'ai aussi le projet d'avoir un chez-moi aussi, de pouvoir investir et de pouvoir vraiment créer un studio spécial couture et en rapport avec la vidéo. Je me vois aussi avoir une plus grande communauté que maintenant, avoir touché plus de gens... et surtout bah, pouvoir faire ce que je voulais faire à la base, des projets beaucoup plus ambitieux en termes de couture. Et puis après, voilà, hein, j'ai plein d'idées, donc les projets, pourquoi pas faire des projets en collaboration avec, pour des projets, je sais pas, sur YouTube. Voilà, j'ai vraiment plein d'idées. Du coup, je me vois bien là, déjà dans 5 ans. Je pense que c'est pas mal.
Carrément.
Et surtout, bah, de pouvoir être libre et voyager aussi, continuer et tout en continuant à faire ce que je fais maintenant.
Parfait. Est-ce que, juste, j'essaye de parler un tout petit peu plus de couture. Qu'est-ce que tu préfères en couture et qu'est-ce qui te déplaît le plus ?
Alors, ce que je préfère, c'est à la fin. Les essayages.
Ok.
Le fait de découvrir le vêtement, de voir la finalité, de voir si ce qu'on avait imaginé, ça tombe bien, c'est-à-dire au niveau du tombé, du tissu, de la couleur sur la personne. Donc en l'occurrence, moi je suis mon propre mannequin pour le moment, mais le jour où je pourrais coudre aussi pour d'autres personnes, ça pourrait être sympa. Vraiment la finalité de la création en elle-même et surtout bah, quand on a un vêtement et quand on retourne tout
quand on le remet sur l'endroit
déjà, voilà, ça j'adore. Et ce que je déteste le plus, forcément, je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, c'est dépiquer.
Ah oui, c'est tu sais, en préparant les questions, je me suis dit, moi je répondrais ça aussi. Parce que c'est
ah oui,
vraiment
ça se dépiquer,
l'enfer.
Mais surtout quand on connaît, quand on sait comment il faut faire, quand on l'a fait des centaines et des milliers de fois, et en fait qu'on ne se rend pas compte, qu'on va vite, et en fait voilà.
On fait une connerie, ça arrive.
Arrive l'erreur fatale. Ouais, ça arrive à tout le monde, donc faut pas se décourager. Et des fois c'est frustrant, c'est énervant, mais c'est ça aussi la couture. Ça demande beaucoup de patience. Et de persévérance, quoi.
Et est-ce que tu aurais une astuce, ta meilleure astuce en couture ? Ouais, alors j'aurais peut-être dû te l'envoyer avant cette question, parce que j'avoue que de but en blanc, au secours.
Ma meilleure astuce En termes de couture, tu parles en termes de technique ?
Ouais, en technique couture. Pour quelqu'un qui fait de la couture, quelle est selon toi la chose importante ?
Pour moi, la chose la plus importante, c'est de tout repasser. La moindre couture que l'on fait, il faut absolument tout repasser. Et le faire repasser, c'est comme le bras droit pour moi. Et ça permet de vraiment mettre les choses au propre et de faire de jolies coutures après. Et de se donner un coup de main finalement. On passe un peu plus de temps avec le faire repasser, certes. Mais finalement, après, c'est quand même sympa. On s'en rend compte et ça aide bien, ouais. Faire repasser.
Très bonne astuce. C'est vrai qu'il y a une vraie différence entre faire un projet sans jamais repasser et en le repassant systématiquement. Ouais. La différence se voit même sans être habitué à faire de la couture, quoi. Dire quelqu'un qui a jamais réfléchi à la couture voit la différence entre deux vêtements quand il est repassé ou non, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voudrais parler ?
Alors oui. Je pense que, tu sais, je m'étais posé la question, je suis en train de me poser la question parce que les 100 000 abonnés sont très très vite arrivés et je voulais faire une vidéo un peu spéciale et révéler un petit truc sur moi qui est assez personnel mais qui je pense aiderait aussi beaucoup de gens.
D'accord.
C'est que je suis malentendante.
Ok.
Donc c'est un handicap qui se voit pas du tout et c'est aussi pour moi un message pour dire aux gens que malgré un petit handicap qui se voit pas, hein, ça amène plein de difficultés au quotidien, mais on peut tout faire en fait. On peut tout faire et la preuve, j'arrive à faire des vidéos, à monter le son. Alors des fois, je me souviens au début, c'était pas facile de doser justement.
Ah oui, j'allais te le dire. À cause de ce petit handicap. Sur la première vidéo de ta chaîne, à la fin, il y a une musique qui arrive, tu parles en même temps. Je me disais, waouh, c'est l'enfer quoi. Effectivement.
Ah ouais, mais des fois c'est un peu compliqué de savoir doser en fait parce que par exemple moi sur mon...
Mais là ça va, ce que tu fais c'est vachement bien.
Bah ouais mais je pense que c'est ça en fait le fait d'avoir eu ce handicap parce que je suis née en fait avec ça. Mm-hmm. J'ai environ une perte de 50% on va dire pour mettre une image de 50% beaucoup plus dans les graves que dans les aigus.
D'accord.
Et du coup, c'est vrai que c'est pas évident de doser, mais à force, en testant, j'arrive à trouver. En fait, quand je fais mes montages, je sais qu'il faut toujours que je mette le même dosage en fait de son au niveau des réglages. Je sais pile poil que ça, je vais pas me tromper en faisant ça, donc ça m'aide quoi. Parce que c'est vrai que par exemple, si moi j'écoute de la musique sur mon téléphone, bah, je mets à fond en fait le son de mon téléphone parce que le son est beaucoup trop bas si je le mets normal, pour quelqu'un qui n'a pas de souci de surdité quoi. Mais c'est vrai qu'au moins la machine à coudre ne me casse pas la tête parce que forcément...
La surjeteuse ne te rend pas folle?
Non, alors j'ai pas de surjeteuse, mais pour en avoir... déjà utilisé, ça fait beaucoup de bruit.
C'est un enfer.
Je m'en rends bien compte. Mais non, pour le coup, ça va. C'est un avantage.
Parfait. Non, mais c'est cool parce qu'effectivement, ça ne se... Bah, de toute façon, ça ne se voit pas, quoi.
Non, ça s'entend peut-être un peu pour les gens qui connaissent. Il y a des personnes... au tout début de ma chaîne YouTube, j'avais eu des commentaires horribles par rapport à ma voix.
Hey, bienvenue sur YouTube.
Ils leur disaient, mais... Oh là là, c'était un truc. J'avais dit, bah, c'est peut-être parce que j'ai un handicap. Et en fait, je ne m'en suis jamais vraiment cachée. C'est vrai que je n'en parle pas, mais je ne m'en suis jamais cachée. Et je me souviens que la personne avait retiré ses commentaires parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent être blessants sur les réseaux sociaux.
Ouais, soit pour faire une blague, parce qu'ils s'ennuient. C'est vrai que ça va très vite, quoi.
Ouais, c'est ça. Bon, autant les blagues, bon, ça me dérange pas. Moi aussi, je suis une grosse blagueuse, mais il y a des choses, des fois, c'est un peu... Mais bon, voilà, il faut savoir ne pas le prendre personnellement parce que finalement, les gens ne nous connaissent pas vraiment. Voilà, c'est normal. Donc, je me dis que ça fait partie du jeu aussi. Donc voilà.
T'es beaucoup harcelée pour ça ou...
Alors, non, ça va. J'ai pas trop d'harcèlement. Mais c'est vrai que depuis 2 mois, depuis que justement il commence à y avoir ces gros pics sur ma chaîne YouTube, Sur Instagram, je vois que les commentaires sont un peu plus virulents. Il y a des commentaires qui servent à rien. Il y a des commentaires, on ne sait pas pourquoi ils sont là. mais en soi, non, j'ai pas de personnes qui reviennent à la charge. Et pour le peu que j'ai eu, allez, j'ai peut-être eu deux personnes que j'ai bloquées parce que les commentaires étaient un peu, enfin, très déplacés. Donc ça m'est arrivé de bloquer vraiment deux personnes, mais pour le coup, non, ça va, j'ai été assez épargnée. Mais c'est vrai que plus j'avance et plus je me rends compte que ça attire plus de gens et du coup...
Et des gens voilà. Pas forcément bien intentionnés, ouais, malheureusement.
C'est ça. Bon. C'est ça, c'est pourquoi je me protège beaucoup et je fais attention à ce que je partage sur les réseaux sociaux, quoi.
Ouais. Merci, Jupi.
Bah, de rien, avec plaisir, c'est cool.
Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je vous rappelle que c'était le premier épisode de ce podcast. Soit donc, si vous entendez des petites choses bizarres, s'il y a... Enfin voilà, j'avais prévenu Jupi qu'elle serait la première à passer et donc qu'il faudrait sans doute être un peu indulgent. Je vous mets en note de ce podcast tous les liens pour retrouver mon invité et découvrir son travail. Vous allez découvrir sa chaîne YouTube, son Instagram, également son TikTok. Quant à moi, je vous dis normalement à la semaine prochaine pour une nouvelle interview d'une nouvelle créatrice ou peut-être d'un créateur, je ne sais pas encore. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous sur les réseaux, sur YouTube, sur Insta, sur mon blog, où vous voulez, pour découvrir ce que je fais en couture également. À très bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.